Le 6-9 de l'été sur France Inter.
Et comme tous les jours, rendez-vous avec Éric Orsenna de l'Académie française pour sa série consacrée à Jean de La Fontaine. Et aujourd'hui, La Fontaine écartée du pouvoir.
Mademoiselle, je peux citer ma femme? Je la sais par cœur.
Voilà une bonne idée. Nous t'écoutons.
Jean de La Fontaine, une école buissonnière.
La cigale ayant chanté tout l'été
lui tint à peu près ce langage.
Je me sers d'animaux pour instruire les hommes.
Par Éric Orsenna.
Sa Majesté le Roi.
La machine à gloire.
Colbert, ne croyez pas que je sois insensible à vos remontrances. J'en fais grand cas précisément. Pourtant, il est un point sur lequel, mon ami, je ne vous suivrai pas. Et ce point, c'est Versailles. Car Versailles sera tel que je l'ai conçu. J'y dépense des sommes folles, j'en conviens. Mais à vrai dire, je les crois folles en apparence seulement. Et je n'ai pas l'impression que tout cet argent soit à jamais perdu.
On sait que Versailles, sous couvert de parc, est un livre. Un livre de 1000 hectares où chaque statue, chaque fontaine, chaque perspective, chaque reflet sur l'eau du Grand Canal raconte la gloire du roi soleil. Vous voulez dire que Versailles est une propagande? Affirmatif.
Et c'est pourquoi je veux qu'il soit construit comme une phrase, avec ses compléments, ses attributs. Son futur antérieur et plus encore son passé défini.
Versailles est le seul exemple, sans doute avec les grands jardins chinois, où le projet de louanger un tout-puissant a fait naître une œuvre de génie. Colbert, le ministre principal, ne voulait pas être en reste. Lui aussi voulait célébrer son roi. Notre ministère actuel de la Culture naît le 3 février 1663. Ce jour-là, Colbert réunit des hommes de confiance, dont Charles Perrault, oui, l'auteur des contes, dont le Chaboté, le Petit Poucet, Peau d'Âne. Il leur demande de choisir les légendes et les emblèmes qui illustreront les bâtiments royaux et toutes les médailles. Ainsi naîtra l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'une des cinq qui constitue l'Institut de France.
Il pensionnait aussi les artistes, Colbert, c'était pas seulement un financier.
Ah ben non, c'est quelqu'un qui a une politique globale, c'est un esprit très pragmatique. C'était un grand bibliophile.
Daniel Dessert.
C'est un homme de dossier. Et par conséquent, il s'est beaucoup intéressé aux artistes, comme beaucoup de responsables politiques de l'époque. Et il a créé tout autour de lui une petite académie qu'il met au service, bien évidemment, du roi. Et les artistes doivent contribuer à la propagande royale.
Toujours avec le même souci de célébration, Colbert demande à un très médiocre immortel, je veux dire un académicien terne, il en est, de lui rassembler des écrivains disposés à tremper leurs plumes dans l'encre de la flatterie. En échange, il recevrait pension. Le terne s'appelait Chapelain, auteur vite oublié de quelques critiques et d'un indigeste poème héroïque dont le titre déjà, selon votre caractère, vous endort ou vous ébaudit, la pucelle ou la France délivrée. Les candidats se bousculent, Chapelain s'acquitte avec conscience de sa mission, il sélectionne grave, ne gardant que les dociles garanties, une liste de 15 est dressée, au travail messieurs. Marc Fumaroli raconte l'usine ainsi créée, il la baptise « machine à gloire ». Et par un trait d'intelligence qui est sa marque, il la compare à une autre machine, celle de Marly, qui était censée détourner un peu de la Seine au profit de Versailles qui souffrait de sécheresse. Par le jeu de ses pensions, Colbert transforme les lettres françaises en grandes eaux.
Que se passe-t-il?
Fouquet est en prison.
Alors plus de pension?
J'ai rapporté ça aussi.
Des culottes...
Elles sont magnifiques.
3000.
J'espérais 5000.
La Fontaine n'avait aucune chance de devenir l'un de ses élus. Il avait été trop proche du réprouvé Fouquet. Et pire, bien loin d'avouer sa faute, il avait persisté en défendant son ami. Comment allait-il subsister? Rappelons-le, je vous parle d'un temps où les droits d'auteur n'avaient pas encore été inventés. Les militants du téléchargement gratuit sur la toile feraient bien de réfléchir à cette question toute simple, quoique jugée par eux vulgaire, comment vivre de son art sans le soutien d'aucune fortune personnelle? Et si vous vous refusez à la servitude, vous me direz, ce n'est pas la première fois, ni sans doute la dernière, que la liberté tue la liberté.
Éric Orsenna, Jean de La Fontaine, École buissonnière, réalisation Xavier Pestudia.